Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat cette semaine avec le magazine Version Fémina. Bonjour Catherine Rouague.
Bonjour Caroline.
Vous êtes la directrice de la rédaction de Version Fémina et comme chaque dernier dimanche du mois, à 12h25, vous nous proposez la cerise sur le gâteau. Quelle cerise aujourd'hui ?
Ah, aujourd'hui je vais vous faire une fleur Caroline.
À tout à l'heure, 12h25. Donc, bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
La Madeleine sera fleurie aujourd'hui ?
Ah, peut-être un peu, c'est le comédien Philippe Torriton qui nous en parle.
À tout à l'heure, 12h15. Et savez-vous toutes les deux combien la capitale compte de restaurants aujourd'hui ?
Non.
Silence. Savez-vous donc combien ils étaient en 1780 ?
Très peu, je pense.
Très peu également. Et qui est l'inventeur du restaurant à la française ? Et qui a inventé la pêche melba et le mot brigade pour parler de l'équipe en cuisine ? Eh bien, toutes ces questions, vous allez le savoir, savoir les réponses en écoutant notre invité, historien et essayiste prolifique, qui répond donc à toutes ces questions et bien d'autres encore dans un livre passionnant sur la naissance de la restauration et l'essor de la gastronomie qui l'accompagne.
Ce qui m'a toujours étonné chez les Français, c'est l'importance qu'ils accordent à la nourriture. À midi, il faut manger. J'ai entendu un jour un étudiant passer 5 minutes à décrire à l'un de ses amis le beefsteak magnifique qu'on lui avait servi la veille dans un restaurant.
Bonjour Antoine Debac.
Bonjour.
Bienvenue dans Ces Bonnes Choses qu'on entendait là est un extrait du court-métrage Nadja à Paris d'Éric Rohmer qui date de 1964 et qu'on retrouve dans le livre que vous signez ces jours-ci chez Payot, La France gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire. Comment, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, comment la gastronomie est-elle entrée dans votre vie à vous?
Moi, je suis pas spécialement gastronome au sens d'un
gourmet. Ça commence bien.
Voilà, oui, c'est un peu décevant. C'est comme quand j'avais écrit cette histoire des nuits parisiennes.
Vous n'êtes pas noctambule.
Je suis pas tellement noctambule, mais par contre, je me sens très proche au sens topographique, géographique de cette histoire, puisque elle se passe dans un quartier que j'habite depuis très longtemps, qui est le Palais Royal à Paris. Et donc, voilà, même si la plupart des restaurants dont je parle dans ce livre ont disparu, il en reste un, par exemple le Grand Véfour, hein, qui est là toujours depuis le début du 19e siècle. C'est quand même une proximité avec les lieux qui est importante dans la marche autour du Palais Royal. Voilà, c'est des fantasmes, des rêves, des rêveries qui me viennent en confrontant, disons, ces lieux avec les archives, les textes que j'ai pu travailler.
Donc c'est plutôt les rêveries d'un promeneur dans Paris que le plaisir de la table à proprement parler qui vous ont conduit à travailler.
Absolument.
Sur la naissance du restaurant.
C'est vraiment une sorte de promenade. Alors le livre suit cette promenade puisque voilà, il prend un certain nombre d'exemples qui sont des restaurants de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle qui s'établissent tous autour du Palais Royal puis ensuite avec cette translation qui migre vers le boulevard qui n'est pas très loin.
Qu'on appelle les grands boulevards aujourd'hui,
voilà,
la Madeleine
à
Bastille.
Exactement, qui est à 500 mètres, hein, donc c'est pas très loin, mais donc c'est aussi un quartier que je fréquente. Donc voilà, c'est plutôt en suivant ce qui était un genre d'ailleurs très important au début du 19e siècle, la promenade gastronomique.
Sauf que vous vous êtes pas arrêté pour déguster à chaque fois, puisque
voilà.
Justement ces restaurants, à part le Grand Véfour, n'existent plus. Est-ce qu'on sait, Antoine Debac, pourquoi les premiers restaurants, et bien sûr on va revenir sur cette époque, mais est-ce qu'on sait pourquoi les premiers restaurants se sont installés autour du Palais Royal ?
Le Palais Royal était un petit peu le lieu à la mode. C'est vraiment un lieu important à la fin du XVIIIe siècle. D'une part parce que c'est un lieu de liberté. C'est un lieu où la police du roi n'a a priori pas le droit d'entrer puisque c'est un lieu qui appartient en propre au prince d'Orléans, qui est un des grands princes du royaume, mais qui a sa propre police. Donc c'est un lieu, disons, où règne une certaine liberté, une certaine licence même, ce qui permet à un certain nombre de choses de se passer autour, par exemple, du jeu, du commerce, des images interdites, des libelles, de la prostitution. Et donc c'est un lieu qui, par cela même, accueille énormément, disons, à la fois le tout Paris et puis les badauds, les gens qui veulent à la fois voir, se montrer. Je dirais, pour faire une comparaison un petit peu, évidemment, anachronique et un peu osée, c'est le Pigalle de l'époque. Et donc, le restaurant qui a besoin de ce public, s'installe assez naturellement dans cet espace-là. D'autant plus que c'est un espace qui est aussi très proche du quartier aristocratique qui est le Faubourg Saint-Honoré.
Juste en quelques décennies, même c'est assez drôle, parce que c'est entre la fin de l'Ancien Régime et la Restauration que naît le restaurant.
Exactement.
En l'occurrence, Antoine de Bac. Invention du restaurant, du guide, de la théorie gastronomique, du premier génie des fourneaux. Tout s'est joué en quelques décennies, donc à la fin du XVIIIe siècle. Là encore, pourquoi à ce moment-là? Quel est le contexte dans lequel naît le restaurant et tout ce qui va avec?
Un historien qui se penche sur la naissance du restaurant, il doit un petit peu faire feu de tout bois. C'est-à-dire que il est à la fois historien de la culture, la culture du bien manger. C'est vrai que c'est à la fin du XVIIIe siècle que se met en place cette idée que manger est important et que connaître ce qu'on mange est important et que parler de ce qu'on mange est essentiel, hein. Donc ce qu'on pourrait appeler la culture gastronomique. Donc, mais il doit être aussi cet historien, disons, du social, de la société, puisque le restaurant naît aussi à la fin du XVIIIe siècle pour une raison sociale assez évidente, c'est-à-dire que ceux qui employaient les cuisiniers jusqu'alors, c'était essentiellement les princes, les grands aristocrates qui avaient disons, à la fois le moyen et le désir d'avoir des grands cuisiniers. À partir du moment où un certain nombre de ces grands aristocrates partent, parce que la révolution arrive, soit qu'ils soient chassés, soit qu'ils décident de partir en émigration, les grands cuisiniers se retrouvent sans emploi et donc vont mettre sur le marché, le nouveau marché, leur savoir-faire culinaire et donc vont ouvrir des restaurants, vont changer en quelque sorte de voilà, ceux qui vont leur payer leur vie de cuisinier, ce n'est plus le mécène aristocrate, c'est le public, le grand public. Et donc ce public est un public essentiellement nouveau, c'est un public qu'on va qualifier
mais c'est
de
pas populaire
bourgeois.
Encore oui, c'est
non,
plutôt
c'est
bourgeois.
Pas c'est pas un public populaire au sens où justement c'est une sorte de transfert depuis l'aristocratie jusqu'à la nouvelle classe qui monte, hein, la bourgeoisie, et on est dans des habitudes et dans une économie qui est largement aristocratique, qui est vraiment se payer un restaurant à la fin du XVIIIe siècle,
c'est la haute société.
Je dirais, j'appelle ça le suffrage censitaire de l'estomac, c'est-à-dire il faut pouvoir
avoir les moyens de se payer un restaurant.
Alors, le restaurant va évoluer, on en parlera peut-être, mais en tout cas, quand il va ouvrir migrer sur le boulevard et il va se diversifier, il va y avoir des restaurants populaires. Mais en tout cas, à la fin du XVIIIe siècle, au Palais Royal, c'est vraiment un luxe de se restaurer. Et puis, c'est une histoire, on va dire, économique. En ce sens que le restaurant s'invente proprement dit, donc le premier restaurant à l'automne 1765, c'est un économiste en fait qui invente le restaurant, ça peut paraître étrange.
Hein, Mathurin Rose de Chantoiseau.
Voilà, c'est un philanthrope, un physiocrate comme on dit, c'est-à-dire un adepte de la nouvelle économie, celle qui prône la circulation et la fin des privilèges, la fin des corporations, la fin de ce qui pouvait fixer comme ça l'économie d'ancien régime. Et donc l'idée de Chantoiseau, c'est de dire comment faire pour manger bien à Paris à ce moment-là, en 1765. En fait, à ce moment-là, quand on veut bien manger, on va à Londres. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est la taverne londonienne qui domine la première restauration publique, on va dire. Parce qu'à Paris, il y a certes des endroits où on peut manger. Il y a ce qu'on appelle des tables d'hôtes. Alors, les tables d'hôtes, c'est une table d'abord collective. On ne choisit pas sa table, on est à une seule table. Et puis, on ne choisit pas son horaire et on ne choisit pas son menu.
C'est-à-dire que, ça fait voilà, beaucoup, hein.
Oui, on vous sert à telle heure, tous ensemble, ce qu'on appellerait un gîte aujourd'hui, voilà, une table d'hôte.
Le gîte et le couvert.
Il y a aussi ce qui est très populaire à Paris et qui marche très bien, ce sont les rôtisseurs, traiteurs. C'est-à-dire que là, vous allez acheter dans une petite boutique un rôti ou un poulet et puis vous ne pouvez pas le manger sur place. C'est-à-dire qu'il y a pas, le rôtisseur n'a pas le droit à la table. Et donc, vous allez le manger, s'il fait beau, au coin de la rue, sur le pont, et s'il ne fait pas beau, vous allez manger chez vous. Donc, c'est autre chose.
Donc, racontez-nous, Antoine de Bac, ce qui s'est passé ce jour de 1765, dans une boulangerie, rue des Poulies, qui est l'actuelle rue du Louvre.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il a fait, ce Mathurin Rose de Chantoiseau?
Ben d'abord, comme il n'était pas cuisinier, il a trouvé un associé qui était cuisinier. Et donc, son idée, c'était de faire basculer dans un autre monde qui est celui qui s'affranchit des corporations, s'affranchit des interdits, des privilèges, et faire circuler la nourriture, faire circuler les gens, leur laisser la liberté de choisir. Et donc, il va ouvrir dans ce lieu, rue des Poulies, ce qu'on va appeler assez vite un restaurant, ce qu'on n'appelle pas à l'époque.
Pas encore, il faut attendre 1835 pour que l'Académie française inscrive le mot restaurant dans son dictionnaire. D'ailleurs, en même temps que gastronome.
En tout cas, il ouvre un lieu où il y a des tables individuelles. Le premier restaurant proposait 3 plats différents. Après, ça pourrait être des dizaines de plats différents.
Jusqu'à 200, j'ai
vu. Ah oui,
même.
Oui, c'est
200
plats proposés. Les premiers grands restaurateurs, c'est une carte, un menu.
Avec des potages, des pâtés, des hors-d'œuvre, des entrées, des poissons, rôtis, légumes, entremets, desserts.
En tout cas, voilà, on a sa table. On est servi par quelqu'un qui vient vous apporter et qui, Diderot le dit, qui est un des premiers témoins, aime bien parler. C'est plutôt une femme jolie. Voilà, il y a quelque chose de très important dans ce service. Et puis, on choisit sur une carte, sur un menu, ce qu'on veut manger, et on sait le prix qu'on va payer, et on peut venir à un horaire qui est relativement souple. Et donc voilà, c'est tout simplement ça que fait Rose de Chantoiseau. Il invente ce qu'on appelle assez vite un restaurant. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle restaurant? Parce que sur l'enseigne de ce premier lieu de restauration, il y a marqué « Ceux qui souffrent de la faim, je vous restaurerai ». C'est une
Venez à moi, je vous restaurerai.
Exactement. Ouais. Donc le restaurant, en fait, désigne plutôt ce qui vous restaure, c'est-à-dire ça a presque une vertu médicinale, c'est-à-dire ce qui vous requinque.
C'est presque une maison de santé, quoi,
voilà,
le restaurant,
exactement.
Au départ. Et alors, on en compte, je posais la question en forme de boutade avant de vous donner la parole, Antoine de Bac, mais on en compte une quinzaine aux alentours de 1780, puis le nombre de restaurants parisiens atteint 300 en 1804, un millier 20 ans plus tard, deux fois plus vers 1840, et je crois qu'aujourd'hui, on recense quelques 12 000 établissements de restauration à Paris. Donc on voit que c'est vraiment une croissance fulgurante.
Absolument, c'est vraiment le lieu à la mode. Donc on en a très vite des témoignages, c'est ça qui est intéressant quand on lit Diderot, j'en parlais, mais Rétif de la Bretonne, voilà, beaucoup de témoignages, souvent littéraires ou alors dans la presse aussi. Et très vite, les grands cuisiniers du royaume, les meilleurs cuisiniers, vont comprendre qu'il s'agit là d'une possibilité pour eux de s'affranchir de leur maître et d'ouvrir leur propre restaurant.
Est-ce que, plus largement, l'apparition du restaurant bouleverse les modes culinaires en vigueur? Alors je pense justement au code du bien manger, à l'horaire des repas, à ce que vous appelez dans votre livre la politesse gourmande du restaurant, ou encore le menu. Est-ce que tout ça change? Comment c'était avant, comment c'est après?
Absolument, ça fait partie de cette grande mutation qui fait partie de cette ère de l'invention du restaurant. D'abord, on va manger plus souvent, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que vont se mettre en place un certain nombre d'habitudes, notamment ce qu'on appelle le déjeuner à la fourchette, c'est-à-dire notre déjeuner, qui est souvent un repas froid. On va décaler du coup plus tard ce qu'on appelle le dîner puis le souper, ce qui fait qu'on a 3 occasions de manger au restaurant. D'autre part, la façon de manger change. C'est-à-dire que la restauration des princes voulait ce qu'on appelait le service à la française. Pour épater, on amenait tout en même temps. Voilà, c'était une sorte d'étalement de la richesse, du luxe. Et on va passer progressivement au restaurant à ce qu'on appelle le service à la russe. C'est un paradoxe, mais c'est-à-dire d'amener au fur et à mesure des plats.
Plus structuré,
plus organisé. Et ce qui permet aussi de manger chaud tous les plats qui doivent être mangés chauds.
Et il y a un homme qui incarne cette réorganisation du service et de la cuisine et qui a révolutionné l'organisation du repas. C'est Augustin Escoffier. On en reparlera juste après la Madeleine.
Ce qui m'a toujours étonné chez les Français, c'est l'importance qu'ils accordent à la nourriture.
Alors, Natacha Trioux, la Madeleine de Philippe Torreton, qui n'est pas spécialement fleurie, mais qui est bien dans le ton de ce qu'on pouvait manger dans les années 1700-1800.
Ah oui, Philippe Torreton qui nous emmène en Normandie. Alors, Philippe Torreton, c'est un grand passionné de théâtre. Il a été sociétaire à la Comédie Française pendant près de 10 ans. Sur les planches, il a été un merveilleux Cyrano de Bergerac, récompensé par un Molière du meilleur comédien en 2014. En ce moment, il joue avec Rachida Brakni dans la pièce « J'ai pris mon père sur les épaules » qui tourne dans toute la France jusqu'au mois de mai. Alors pour sa Madeleine, Philippe Torreton se souvient de sa grand-mère normande.
Alors, on s'éloigne un peu du côté pâtisserie proustienne, mais c'est la terrine de lapin de ma grand-mère. Et quand ma mère en fait, ou que j'en fais moi, ça me connecte tout de suite à ma mémé. Je pense qu'il y avait, dans cette terrine, il y a du calvados. Et le calvados, c'était un peu l'odeur qui régnait dans cette petite maison normande, très basse et très sombre et très humide, accolée à un cellier en terre battue où il y avait des gros tonneaux. Et ces gros tonneaux, dans ma famille, il était de tradition que les petits pouvaient, à une époque de l'année, rentrer dans le tonneau en enlevant une sorte de coffrage en bois pour les nettoyer. Sauf que dans le tonneau, il y a de l'alcool. Donc, on a des souvenirs de rigolade. Je pense qu'on était ivres en faisant ça. Et donc, finalement, cette terrine, c'est pas tellement l'odeur du lapin ou le... ça, c'est plus le décor, mais ce calva que ma grand-mère mettait, moi, me reste... En fait, cette vraie madeleine, elle est peut-être là, finalement. C'est le calva, j'osais pas le dire, mais... à boire avec modération, puisqu'on est à la radio. Mais c'est bon. Bon, c'est tout un mélange, la terrine, parce que ça... Puis il y a plusieurs étapes, ça sent aussi, même avant cuisson, il y a une odeur. Quand vous mélangez tous les ingrédients ensemble, c'est du lapin, du porc, de la farine, un œuf, de la noix de muscade, du calva, sel, poivre, il y a des herbes, voilà, toutes les herbes qu'on peut y mettre, mais ma grand-mère se contentait de persil. Donc, quand c'est pas encore cuit et mis en terrine, c'est toutes ces odeurs-là, un peu vives, parce que c'est cru, puis après cuisson, faut laisser maturer ça plusieurs jours au frigo, et puis là, quand vous découpez, là, il y a une odeur définitive. Je ne sais pas comment décrire ça, mais c'est une odeur à la fois, je vais parler en oxymore, mais douce et puissante. Enfin, on sent que les goûts sont là, atténués un peu, et puis la texture, elle est formidable. Enfin, quand on a réussi, elle a réussi, c'est toujours. Moi aussi, mais c'est pas... ça reste la terrine de mémé, ça reste la terrine de mémé. Moi, je fais une copie.
Antoine de Bac, on vous a laissé sur ce nom d'Auguste Escoffier. Auguste Escoffier met fin à l'abondance anarchique du restaurant. C'est, vous dites, le premier chef moderne de la cuisine française. En quoi ?
Alors, c'est une sorte de chef au sens presque militaire du terme, Escoffier. C'est-à-dire que il est le grand réorganisateur de la cuisine au sens de là où on prépare les repas. C'est-à-dire que, en fait, il a un modèle qui est un modèle militaire, qu'il a mis.
C'est lui qui a inventé le mot brigade.
Voilà, la brigade. La brigade, c'est un mot.
Et tout
militaire.
Le vocabulaire militaire.
Et
en
fait, Escoffier a une expérience de jeune apprenti, puis de jeune cuisinier à Nice, dans le restaurant familial. Et puis, il fait la guerre de 1870 et il paraît, alors il y a beaucoup de témoignages de l'époque, avec rien, Escoffier parvient à nourrir des régiments entiers, à la fois parce qu'il a une invention, une inventivité culinaire certaine, et puis d'autre part parce que c'est un organisateur hors pair et il a compris qu'il fallait hiérarchiser la cuisine, la brigade. Donc c'est Escoffier qui a réinventé l'organisation des cuisines à travers la brigade, et puis il a inventé autre chose, autre que la fameuse pêche Melba.
Ah bah, tout le monde ne le sait pas, c'est l'inventeur de la pêche Melba quand même.
Qui est quand même sa recette la plus célèbre, en hommage à une cantatrice, à Melba. Et d'autre part, c'est lui qui invente, on peut le dire aussi, une nouvelle façon d'aller au restaurant. C'est le palace, c'est gigantesques paquebots qui peuvent accueillir parfois 500, 1000 personnes. Et la rencontre entre Auguste Escoffier et Edgar Ritz va donner, là encore, une nouvelle façon de manger et d'aller au restaurant.
Et pour plus de renseignements, bien sûr, sur Auguste Escoffier, je renvoie au livre que lui a consacré Pascal Horry, un autre historien de la culture, du social et de l'économie, comme vous l'êtes, Antoine Debat. Qu'il lui a consacré un livre intitulé « Souvenirs culinaires, Auguste Escoffier » en 2014. Vous nous disiez tout à l'heure que le lieu, l'espace, la géographie parisienne avait migré depuis le Palais Royal jusqu'au Grand Boulevard. Vous nous parlez là des palaces, mais les brasseries arrivent. Et donc, est-ce qu'avec cette migration, on trouve un changement de sociologie de la clientèle ? Est-ce que ça se popularise d'une certaine façon.
Oui, oui, tout à fait. C'est l'évolution urbaine à Paris qui fait que le Palais Royal perd un petit peu sa cote et devient un lieu un peu en déshérence. Et alors que très proche, le Grand Boulevard, c'est le lieu voilà, où tout se passe. Hein. On va trouver à côté d'établissements extrêmement chics et cotés, très chers, comme Tortoni ou comme voilà, le Café de Paris, sur les boulevards, on va trouver ce qu'on appelle d'abord des bouillons. Ça, c'est quelque chose de très important. Le bouillon Duval, voilà, dans les années 1840, à la fin des années 1840, un boucher a l'idée de proposer quasiment un plat unique qui, à partir des abats et de la viande qu'il a à disposition étant boucher. Et donc, c'est un plat très peu cher, très économique. Et les bouillons vont se multiplier. Il va y avoir 8 bouillons Duval dans le même endroit. Donc, c'est une sorte de nourriture en série, hein, si vous voulez. Et donc, une nourriture peu chère qui va accueillir une clientèle beaucoup plus populaire. Et sur ce succès des bouillons vont se créer effectivement des grandes brasseries, alors qui sont un mixte entre le luxe, voilà, notamment du décorum de ces endroits, et puis le prix relativement accessible de ce que l'on peut manger. Et les brasseries vont être véritablement relancées par la défaite de 1870, hein, puisque tous les brasseurs alsaciens vont quitter l'Alsace une bonne partie pour s'installer à Paris et ouvrir ces grandes brasseries comme Boffinger, par exemple, qui vont être voilà, un grand, grand succès de la fin du 19e siècle.
Alors Antoine de Bac, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sans parler de l'autre aspect de ce livre passionnant, La France gastronome, parce que vous nous racontez comment le restaurant est entré dans notre histoire, c'est le sous-titre de votre livre, mais vous nous racontez aussi l'essor de la gastronomie et de la critique et de la théorie gastronomique. On passe dans ce siècle-là, au tournant du 18e et du 19e siècle, de cette science du parler de la cuisine qui était la gastrologie, mais qui était un peu du grand n'importe quoi, à vraiment la gastronomie avec son vocabulaire, cette fois plus militaire, mais littéraire.
Absolument.
Et vous nous faites quelques portraits savoureux de Grimaud de la Reynière, de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, et je voudrais que vous nous parliez d'eux.
Pour parler de la cuisine, d'abord, dans les livres de bienséance, on ne parle pas de ce qu'on mange. C'est un principe quasi biblique. On ne parle pas de nourriture. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut mettre mal à l'aise celui qui vous invite. Si ce qu'il a fait n'est pas très bon, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, voilà, c'est un principe. Et par exemple, c'est très intéressant de voir que la durée des repas en France est beaucoup plus longue. C'est quelque chose qui est une constante. Hein,
oui, c'est bien dur, ça, c'est encore vrai.
Et pourquoi est-ce que c'est si long? À la fois parce qu'on mange plutôt beaucoup, mais aussi parce qu'on parle de ce qu'on mange et que la nourriture fait parler. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est une révolution dans les mœurs et dans la langue et dans le vocabulaire. Et donc à partir de cette révolution, c'est vrai que se met en place une langue de la gastronomie qui n'est pas celle des cuisiniers. Les cuisiniers ont leurs recettes, il y a des livres de recettes depuis assez longtemps. Et d'ailleurs, les cuisiniers font appel à ce qu'on pourrait appeler des gens de lettres, des philosophes, des littéraires, qui vont réussir à mettre en place cette langue qui décrit de façon souvent assez sensuelle et parfois assez scientifique, presque une langue de chimiste parfois, la façon dont on peut ressentir le plaisir de manger et les goûts différents, l'harmonie des goûts qui se met en place à travers un mets particulier.
D'où cette physiologie du goût de Brillat-Savarin qu'il a écrite en 1825. Vous parlez, Antoine de Bac, puisqu'on lira bien sûr les portraits de Grimaud et de Brillat-Savarin dans votre ouvrage, mais vous parlez des recettes et des livres de recettes. Et il se trouve que votre livre regorge aussi de recettes.
Il y a une trentaine de
recettes.
Il y en
a quelques-unes, voilà, quand même. Alors, il y en a une en particulier que vous souhaitiez nous lire, en partie, disons, parce qu'elle est assez longue. Et cette recette, vous la qualifiez de virile.
Absolument. C'est le lapin rôti d'Alexandre Dumas. Donc, c'est tiré du grand dictionnaire de cuisine. Alexandre Dumas était un historien de la cuisine et un gastronome lui-même. Et donc, il a donné un certain nombre de recettes.
Quelques extraits savoureux.
Assommez un lapin. Ouvrez-lui immédiatement le ventre. Tirez-en le plus de sang que vous pourrez. Enlevez-lui le foie, et avec ce foie, ce sang, une aile de poulet, deux ailes de perdreau, une truffe, un peu de chair à saucisse, de l'oignon, du persil, de l'ail et des épices, faites un hachis dans lequel vous introduirez un morceau de beurre salé et poivré. Remettez le tout dans le ventre du lapin, de manière à ce qu'il simule, quel que soit son sexe, une femelle prête à mettre bas. Quand vous reconnaîtrez que le lapin est cuit, aux petites fusées de fumée qu'il lance, tirez-le, ou plutôt détachez-le de la broche, prenez-le de la main gauche par les pattes de derrière, et de la droite, tirez un coup sec par la queue. Il se dépouillera tout seul, servi sur un morceau de beurre frais, manié de fines herbes.
Eh bien, il aurait été poursuivi par la Ligue des Défenseurs des Animaux, et à juste titre, voilà. Merci beaucoup, il y a beaucoup d'autres recettes qui sont beaucoup plus savoureuses pour le coup dans votre ouvrage. Merci beaucoup Antoine Debac.
Merci.
La France gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire chez Payot. Mais restez avec nous pour écouter la chronique « La cerise sur le gâteau ». Catherine Roig, vous nous avez donc apporté un bouquet de fleurs.
Et plus exactement, un bouquet de saveurs que j'avais envie de vous offrir en ce début de printemps, Caroline. Car si les fleurs sont plus que jamais présentes dans la mode ou la décoration, elles le sont encore plus en cuisine en ce moment. Alors, elles étaient présentes dans l'alimentation d'Homo sapiens depuis la nuit des temps. Je vous rappelle que nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs avant d'inventer l'agriculture, et je doute qu'ils aient fait la différence entre la ciboulette et sa fleur. Bon, toujours est-il qu'elles reviennent en force dans les assiettes contemporaines. Et l'un des chefs à qui l'on doit cette tendance aussi bucolique que romantique, c'est l'immense Michel Brass, du restaurant éponyme à Layol. En juin 1980, alors qu'il se promène sur son plateau de l'Aubrac, dans les pâtures inondées de fleurs et de couleurs, il a une révélation. Ce paysage, il doit le transformer en plat. Le fameux gargouillou est né à ce moment-là.
Une assiette belle comme un tableau, mais pas que ça, Catherine.
C'est bien plus qu'un plat. Cette assiette pourrait être érigée aujourd'hui en manifeste de la cuisine nature. Parce que, au fil du temps, elle est devenue une référence végétale pour d'innombrables chefs autour du monde, et notamment pour les cuisiniers scandinaves comme René Redzepi, du restaurant Noma, ou Rasmus Kofoed, dont le restaurant s'appelle Géranium, à Copenhague, tous les deux, et chez qui accourt des clients du monde entier pour goûter à leurs créations savoureuses et belles aussi comme des toiles de maître. Alors, à propos d'esthétique, je vous précise que les fleurs font actuellement le succès des influenceurs sur les réseaux sociaux. Mimi Thorisson, auteure de livres et d'émissions de cuisine, raconte que c'est son garden cake, un gâteau décoré de fleurs de fraisier, qui a fait décoller son compte Instagram et qui l'a rendu célèbre. Les stylistes culinaires berlinoises Nora Eisermann et Laura Mutesius de Food Stories, avec leurs millions d'abonnés, ne postent pas une seule recette qui ne soit ornée de roses ou de renoncules. Enfin, l'une des tendances de l'année sur Pinterest, c'est le gâteau fleuri qui croule sous les œillets et autres dahlias. Mais le grand Pierre Hermé, qui est à la pâtisserie ce que Picasso était à la peinture, n'a pas attendu cette folie insta-food pour compter fleurettes à ses macarons. En effet, c'est en 1997 qu'il lançait son fameux Ispahan, dans lequel la douce saveur de la rose bulgare répond à celle plus acidulée du litchi et de la framboise. Il a fait beaucoup d'émules puisqu'aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des notes de mimosa au détour d'un plat de cochon, comme chez Manon Fleury à Paris, au Mermoz, ou de Mélilo dans un mijoté de homard chez Jean-François Piège.
Mais vraiment, vous trouvez que les saveurs des fleurs sont intéressantes, Catherine ?
Elles sont plus que ça, Caroline. Les saveurs des fleurs sont d'une grande complexité aromatique et leur légèreté leur donne un côté éphémère un peu magique, bien moins appuyé que les épices. En revanche, pour les cuisiner sans danger, il faut bien les connaître, au même titre que les champignons, car certaines sont très toxiques et je ne saurais trop vous recommander les livres de François Couplan.
Qui sera notre invité dans 15 jours,
formidable,
puisque nous ferons précisément une émission sur la cuisine aux fleurs. Merci,
spécialiste
Catherine.
Mondial. Ensuite, les fleurs ne sont comestibles que si elles sont bio et non traitées. Mais une fois ces précautions prises, vous pourrez goûter au hasard de vos cueillettes, à la bourrache, qui est iodée comme une huître et qui fait merveille avec le poisson, à la prime vert, dont la douceur mielée s'accorde bien avec un os à moelle, à la tagette, dont les notes de curry et de safran réveillent un velouté d'asperges et à mille autres merveilles. Maintenant, si les idées vous manquent, sachez que d'innombrables livres fleurissent sur le sujet. Et n'hésitez pas à vous faire une fleur en achetant un de ces bouquets à croquer vendus sur Internet avec des fiches recettes. D'abord, ils décorent votre maison. Ensuite, ils se dévorent.
Merci beaucoup Catherine, on retrouvera bien sûr cette chronique avec les informations qui vont avec sur notre site internet. Catherine Roig, directrice de la rédaction de Version Fémina. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis à la réalisation et notre technicien du jour, Éric Boisset, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signe des Temps par Marc Weissmann.